Esperanza, un festival en construction.
Comment tu abordes les 10 ans? Est-ce que tu pensais faire 10 ans de festival au départ?
Non, pas du tout, parce que en fait, il n'y avait pas d'idée, il n'y avait pas de plan au départ. L'idée, c'était de faire un événement qui soit un petit peu différent, enfin très différent de ce qui se faisait d'habitude, et de reproduire dans cet événement tout ce qu'on n'aime pas dans les autres festivals. C'est-à-dire, il y a plein d'éléments spécifiques à Esperanza, du style, tu peux voir tous les concerts, par exemple, c'est un confort extrême, t'es pas obligé de faire tes choix entre plusieurs scènes, que le festival soit propre, qu'il n'y ait pas de publicité à l'intérieur. Enfin, c'est tout des trucs qu'on a mis en place dès la première édition parce qu'on voulait faire quelque chose qui nous corresponde. Et donc, on savait pas du tout si le public prendrait et serait intéressé. Et en fait, on s'est assez vite rendu compte dès la première année, et encore plus la deuxième année, qu'on était en phase avec une époque et avec un besoin pour le public de découvrir autre chose et de vivre la fête autrement. Et donc, le festival a tout de suite eu énormément de succès. Mais chaque année, on remettait en question le fait de le refaire ou de ne pas le refaire, jusqu'en 2005, je pense, où on s'est dit, bon, allez, là, maintenant, il faut qu'on arrête. On nous prend pour des rigolos quand on dit chaque fois, on ne sait pas si on va le refaire. Donc, on s'est dit, maintenant, il faut quand même un peu consolider les choses et on a construit plus sur l'avenir. Et voilà le 10e anniversaire avec le succès qu'est celui d'Esperanza. Positionnement qui est de plus en plus difficile parce qu'il y a de plus en plus de festivals, parce que il y a une transformation du milieu artistique, en tout cas sur le plan commercial, avec une envolée folle des cachets, puisqu'il y a la crise du disque. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que ce n'est plus l'Aventura comme au début, c'est beaucoup plus aventureux sur le plan commercial qu'au début, paradoxalement, quoi.
Comment on garde ce côté alternatif en essayant de rester périn?
C'est simple, en fait, on a travaillé en interne, tant au conseil d'administration qu'en assemblée avec tous les bénévoles, que dans le comité organisateur, une charte. À partir du moment où on a décidé de nous inscrire dans la durabilité, parce que c'est comme ça qu'on l'a appelé, ben, on s'est inscrit sur tous les axes du festival dans la durabilité. Et donc, on a écrit une charte qu'on respecte à 100%, qui porte sur le social, l'économique, l'artistique, l'environnemental. Et c'est comme ça que on s'est inscrit très, très fort dès le début dans ce qu'on appelle maintenant le développement durable et qu'on appelait au début festival responsable. Et nous, d'ailleurs, on aime mieux le terme festival responsable que développement durable parce que le mot développement nous pose problème. C'est inscrit dans une charte et tous les gens qui travaillent avec moi, que ce soit l'équipe de base, le comité organisateur ou tous les responsables qui sont plus de 60 sur le festival, sont dans un processus d'interpellation permanent par rapport à ce qu'on met en place sur le festival. Donc on se doit, par respect pour les gens qui travaillent avec nous et par respect pour le public qui vient chez nous et qui aime Esperanza dans sa différence, de continuer à respecter ses valeurs.
Pourquoi avoir eu envie, alors je sais que tu l'as raconté cette histoire, mais je voudrais qu'on parle musique, pourquoi tu as eu envie de faire un festival de musique et pas un festival, un autre événement?
Parce que je suis fan de musique, c'est tout bêtement mon histoire. Depuis que je suis tout jeune, je vais à des festivals, j'ai toujours rêvé, même quand j'étais gosse, d'organiser un festival et j'ai attendu 40 ans pour le faire. Mais voilà, c'est ma vie à moi, c'est ma passion, j'ai toujours écouté de la musique. Et c'est vrai aussi que la Mano Negra ou des groupes aussi comme Rage Against the Machine et choses comme ça ont été une révélation pour moi à une époque, parce que ça me correspondait à du 200% au niveau de mes tripes, d'avoir une musique qui soit forte, qui transpire de l'énergie, que cette énergie soit partagée, vécue par les gens qui sont dans ces concerts et qu'on retourne avec quelque chose de positif et une envie de révolution. C'est tout ça qu'on retrouve finalement dans le festival. Je pense que c'est ça qui fait la différence d'Esperanza. C'est cette prise de conscience que en 3 jours, on peut toucher les gens et changer quelque chose.
Au fur et à mesure des années, tu le disais tout à l'heure, le milieu de la musique a évolué, notamment le festival est né avec un début de crise du disque qui s'est amplifié d'année en année. Et là, aujourd'hui, on commence tout juste à remonter cette crise. On s'est resserré sur le live, les maisons de production qui produisaient les disques se sont eux-mêmes resserrés sur le live en rachetant des bookers, des managers. Est-ce que ça, Esperanza l'a ressenti ou est-ce que parce qu'on est en dehors des sentiers battus, il n'y a pas eu de conséquences?
On l'a pas du tout ressenti au début parce que Esperanza a toujours programmé des artistes qui sont d'abord des artistes de scène avant d'être des artistes qui produisent des CD qui se vendent. Donc on l'a pas du tout ressenti au début, mais on commence à le ressentir depuis 2-3 ans parce que tout est tourné vers la scène. Et donc à ce moment-là, forcément, à partir du moment où on s'intéresse à un artiste qui est porteur et qui a quelque chose à apporter sur le plan scénique, on n'est plus les seuls à s'y intéresser. C'est ça qui fait la grosse différence.
Alors ce festival, tu le dis, c'est un festival de découverte depuis quasi le début, mais il y a quand même des têtes d'affiche. Ces têtes d'affiche, elles coûtent de plus en plus cher. Le budget du festival n'est pas non plus extensible à millions. Comment tu t'en sors, toi, aujourd'hui, alors qu'on sait que les cachets des artistes s'envolent ?
On s'en sort parce que Esperanza reste un festival de la découverte. L'objectif est toujours le même, c'est de trouver des artistes qui seront les révélations de demain. Chaque année, on réussit le pari avec au moins 2-3 groupes. Cette année, en 2011, ce sera le cas parce que on a vraiment des perles extraordinaires, des artistes qui sont inconnus en Belgique, mais qu'on va s'arracher à l'avenir, c'est évident. Et donc, c'est ça qui fait qu'on arrive à organiser ce festival avec un budget artistique qui reste accessible. En ce qui concerne les têtes d'affiche, dans le milieu, c'est très connu. Esperanza n'a jamais joué la surenchère sur le plan des cachets et ne le fera jamais. Et donc, à partir du moment où on est en concurrence avec un autre festival, en concurrence, entendons-nous bien, si, à partir du moment où on demande le même artiste qu'un autre festival, bien souvent, on ne l'a pas parce qu'on n'a pas les moyens et on ne veut pas, surtout, mettre des cachets qui sont disproportionnés et qui ne correspondent pas du tout, parfois, à la valeur de l'artiste.
Quand on passe de la mélomanie à l'organisation d'un festival et qu'on est confronté à ce genre de choses, est-ce qu'on n'est pas dégoûté de ce genre de pratique ? On sait que le milieu de la musique est très opaque d'un point de vue caché, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de naïveté qui est partie ?
Les têtes d'affiche que j'ai sur le festival, bien souvent, ne sont pas des têtes d'affiche de headline d'autres grands festivals. On est quand même dans un niveau qui reste accessible et je préfère payer 10 artistes à 8 000 euros que payer un artiste à 80 000 euros. Et quand on paye 10 artistes à 10 000 euros, on a déjà 10 artistes de très, très grande valeur et qui ont déjà un parcours artistique conséquent. Parce que tous les artistes ne rentrent pas non plus dans cette surenchère. Il y en a qui veulent faire de la scène et qui aiment faire la scène et qui restent avec des cachets accessibles. C'est ceux-là que moi je pointe avant tout. On a un magnifique exemple cette année à Esperanza, c'est les Ogres de Barbac. Ce groupe vend des disques, ce groupe, on se l'arrache partout et le cachet reste tout à fait accessible et tout chez eux est autoproduit. La manière de fonctionner de ce groupe, c'est un exemple vraiment.
Une salve de reproches qui sont censés m'émouvoir, sensible, je m'en tape la cloche. En néologue pro, j'ai l'expression libre et moi je dis que chercher du boulot, c'est un concept bourgeois. Elle m'intercepte, me coupant la parole en deux. Je lui avoue, c'est un fait, tout est de ma faute et tant mieux. L'amour donne du zèle si je m'enrôle au gré de toi. Pour moi, l'union fidèle est un concept bourgeois. Elle baille en rond et me dit c'est inévitable. Entends-tu mes pressentiments, tu vas t'endormir sous la table. Pour toi, je crains le pire de tes nuits blanches, vin de noix. Je lui réponds que dormir, c'est un concept bourgeois. Elle rit de moi, pas de paye et pas de peau. Mon compte est aux abois, sans monnaie pour le proprio. Je suis sans terre à terre, je check mon chèque en bois. Pour moi, propriétaire est un concept bourgeois. Viens me voir pour une salve de reproches qui sont censés m'émouvoir, sensible, je m'en tape la cloche. En néologue pro, j'ai l'expression libre et moi je dis que chercher du boulot, c'est un concept bourgeois. Elle voudrait bien, aux yeux de la République, avoir un bon citoyen comme compagnon politique. Mais je n'embrasse pas les mains du vieux François, la société pour moi, c'est un concept bourgeois. Elle s'intéresse à ma façon d'être tranquille, de savoir gérer son stress en équilibre sur le fil. Funambule serait faire compagnie sans tracas, car s'inquiéter pour son salaire est un concept. Concept bourgeois, elle garde à vous l'uniforme des principes. Sur sa peau se tatouent les frontières sans logique. Les idées du passé s'accrochent et moi j'aboie. La nationalité est un concept bourgeois. Oh, une salve de reproches qui sont censés m'émouvoir sensiblement, tape la cloche. En néologue projet, l'expression libre et moi je dis que chercher du boulot c'est un concept bourgeois. Elle prie mes mains quand je travaille mes pieds, en espérant que demain soit un dimanche à prier. Mais j'ai sans prétention plus de cœur que son foi. Pour moi la religion est un concept bourgeois. Elle m'autorise à chanter mes inconvenus, en m'assénant c'est la crise, rien n'y peut rien bien entendu. Vos belles mélodies nous apportent bien des émois, mais la révolution pardie n'est pas un concept pour moi. Elle me fait des promesses, demain tout ira pour le mieux. En attendant serrons les fesses, la calmie c'est bientôt bon vieux. J'ai de la rébellion, cela ne me concerne pas. Se sacrifier pour la nation c'est un concept bourgeois. Elle vient me voir pour une salve de reproches qui sont censés m'émouvoir sensiblement, tape la cloche. En néologue projet, l'expression libre et moi je dis que chercher du boulot c'est un concept bourgeois. Elle me fait des avances en découvert autorisé, on recommande et me relance à coup d'agio majoré. Il n'y a rien à faire, je ne rembourserai pas, car gérer son compte bancaire c'est un concept bourgeois. Elle voudrait me voir de la sueur sur le front, assumer mes devoirs sans aucune concession. Je vais la décevoir, je ne participe pas, protéger son territoire c'est un concept bourgeois. Elle m'envoie dans la rue une fleur en boutonnière comme réponse incongrue. Elle me déclare la guerre, je laisse en souvenir la chanson que voilà. Chanter pour le plaisir c'est un concept bourgeois. Elle garde à vous l'uniforme des principes, sur sa porte tatouée les frontières sans logique. Les idées du passé s'accrochent et moi j'apprends la nationalité, c'est un concept bourgeois. Elle baille en gros et me dit c'est inévitable. Entends-tu mes pressentiments, tu vas t'endormir sous la table. Pour toi je crains le pire de tes nuits blanches au vin de noix. Je lui réponds que dormir c'est un concept bourgeois. Elle rit de moi, pas de paye, pas de pot. Mon compte est aux abois, sans monnaie pour le proprio. Je suis en terre à terre, je check mon chèque en bois. Pour moi propriétaire c'est un concept bourgeois. Elle vient me voir pour une salve de reproches qui sont censés m'émouvoir sensiblement, tape la cloche. On est au long de projet, l'expression libre et moi je dis que chercher du boulot c'est un concept bourgeois. Elle voudrait me voir de la fleur sur le front, assumer mes devoirs sans aucune concession. Je vais la décevoir, je ne participe pas, protéger son territoire c'est un concept bourgeois. Elle m'envoie dans la rue une fleur en boutonnière comme dépense incongrue. Elle me déclare la guerre, je laisse en souvenir la chanson que voilà. Chanter pour le plaisir c'est un concept bourgeois. Elle fait comme ça là.
D'autres festivals jouent les têtes d'affiche. Ils se justifient en disant que les gens attendent de toute façon ce qu'ils ont déjà entendu à la radio, qu'il y a très peu de découvertes sur les radios. Comment tu expliques qu'un festival comme Esperanza attire encore du monde dans ce soi-disant contexte ?
Ça me fait peur. Je trouve que l'évolution, malheureusement, n'est pas très positive. Je sens bien qu'il y a actuellement, surtout chez les très jeunes, une recherche toujours d'aller voir la tête d'affiche. J'ai comme le sentiment que le festivalier fait son marché. Et comme on est dans une logique avoir la tête d'affiche que l'autre n'aura pas, eh ben forcément, le public risque de rentrer dans cette logique-là. Or, pour venir à Esperanza et passer un bon moment à Esperanza, et les échos sont toujours très très positifs. Évidemment, chez nous, on a quand même plus de 60% du public qui est fidèle à Esperanza, qui revient d'année en année. C'est énorme. Il faut qu'on ose aller vers la différence et qu'on ose aller dès les premières années. Ce qui se disait d'Esperanza, c'est on ne connaît pas les groupes, mais on y va parce qu'on sait que ce sera génial. Mon rêve, c'est que ça reste toujours la même chose, mais il faut oser le faire, évidemment. Esperanza, c'est un tout. C'est pas que de la musique. C'est aussi des arts de la rue qui sont très présents. C'est une place pour les enfants. Je sais qu'en Wallonie, à Bruxelles, c'est le seul festival où les adultes peuvent venir avec des enfants en étant à l'aise. Il y aura un village pour les enfants. C'est vraiment un festival qui est familial, même s'il y a une place pour les jeunes, avec des concerts pleins de hargne, de pugnacité, où on pogote, etc. Mais aussi de la place pour le recueillement, il y a de la place pour le bon manger, il y a de la place pour les enfants, il y a de la place pour rigoler, pour se reposer. Il y a énormément de possibilités de vivre ce festival, et chacun y trouve la bonne manière, je veux dire. C'est un tout, et nous, on ne peut exister qu'en étant un tout, parce que si on n'existe que par notre affiche, non, on meurt, puisqu'on n'a pas les grosses têtes d'affiche que tout le monde veut voir, quoi. Honnêtement, j'ai pas envie de le faire. Et pourquoi je le ferais alors qu'ils peuvent aller les voir ailleurs? Donc, il faut venir à Esperanza pour voir autre chose.
Alors en 10 ans, on a vu justement des découvertes qui sont devenues des têtes d'affiche. Ouais. C'est pas un peu frustrant de prendre le risque la première année pour ensuite voir la foire d'empoigne sur l'artiste dont personne en fait voulait, auquel personne croyait la première année et qui est pourtant passé à Esperanza?
C'est mon plus grand plaisir, c'est vraiment ma plus grande réjouissance, c'est au contraire d'avoir programmé des artistes qui sont les artistes de demain et on a des magnifiques exemples et c'est vraiment une immense joie pour moi. C'est Balkan Beatbox, c'est La Face qui revient cette année d'ailleurs, donc il y en a en effet parmi les artistes qu'on a programmés pour la première fois en Belgique et qui ont fait un beau parcours après, qui reviennent cette année. C'est une grande première pour le 10e anniversaire. Tous ne reviennent pas parce que ils ne sont pas là ou parce que justement ils coûtent trop cher. Oui, ils ont viré leur cutie et demandent des cachets mirobolants. Mais il y en a qui reviennent, comme les Ogues de Barbac, La Face, le chanteur de Grand Nation, Stafford, qui nous adore et qui a très bien compris la philosophie du festival. Et il y en a plusieurs comme ça. Et ça, c'est vraiment un grand plaisir. Et après, oui, il y a des artistes qui seront à Esperanza cette année, qu'on retrouvera partout ailleurs l'année prochaine. Ça, j'en suis sûr et je m'en réjouis évidemment.
Est-ce que tu penses qu'Esperanza, après ses 10 ans passés à Floref, aurait pu se faire ailleurs?
Non. Enfin, oui. Techniquement, logistiquement, il pourrait se faire ailleurs, mais ce ne serait plus Esperanza. Je l'ai toujours dit. Pour moi, Esperanza est intimement lié aussi à l'abbaye de Floref. Il y a 3 piliers dans le festival. C'est son caractère engagé, son identité artistique, qui est forte, je pense, cette ouverture sur les musiques du monde, et c'est son lieu qui est magique, et faire Esperanza ailleurs, oui, mais ce ne sera plus Esperanza.
L'engagement justement au festival, il a évolué en 10 ans, on est passé à des thématiques annuelles, biannuelles, et puis maintenant on parle plus de thématiques, on parle de démarches.
Non, il y aura quand même une thématique cette année, qui est la citoyenneté à l'échelle planétaire. Oui, on a fort évolué, on a démarré sur des partenariats forts avec des ONG, des associations, pour en arriver maintenant à développer notre propre thématique, et à travailler avec dans l'animation avec des associations qui sont plus petites en général et qui sont plus proches encore du citoyen et qui proposent des alternatives fortes en matière de changement de société. On s'est radicalisé quelque part dans notre caractère engagé, pas seulement sur le plan de la thématique, mais aussi sur le plan des choix que l'on fait sur le festival, puisque petit à petit, on a remercié certains partenaires et que maintenant, on n'a en effet plus aucun partenaire qui ne nous pose problème sur le plan éthique ou sur le plan de la vigueur commerciale, je vais dire, qui parfois nous dérange. Donc le festival, oui, s'est radicalisé, ce qui, sur le plan financier, ne facilite pas nos affaires. Mais néanmoins, il y a une petite amorce cette année où on trouve de nouveau des partenaires qui se sentent mieux chez nous qu'ailleurs. Et ça, c'est réjouissant, parce que là, ça veut dire qu'on est quand même encore bien en face avec nos valeurs et qu'il y a des échos de ces valeurs-là chez d'autres.
Il y a eu pas mal d'artistes venus d'Afrique. On ferme les frontières par rapport aux déplacements de population en provenance d'Afrique. Cet hermétisme qu'on est en train de vivre politiquement par ailleurs, est-ce qu'on le ressent aussi dans le milieu musical en 10 ans?
Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a moins d'artistes qui viennent d'Afrique. C'est évident. Il y a une évolution des musiques du monde où au départ, on était vraiment dans une niche. On était quasi les seuls à notre niveau en Wallonie à présenter des artistes qui viennent d'Afrique, d'Amérique latine, etc. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ceux qui marchent, les vedettes entre guillemets, on les retrouve aussi dans d'autres festivals qui sont pop, rock, électro ou d'autres styles. Pour ce qui est des découvertes, c'est beaucoup plus difficile parce qu'en effet, un artiste africain a très très difficile de s'exporter s'il n'a pas le soutien d'un producteur européen. Et là, on voit une très très forte différence. Mais la fermeture des frontières se joue aussi avec des artistes qui peuvent venir de l'Est. Ben, nous, on a eu le cas avec une annulation pour un artiste russe. Donc ce n'est pas uniquement avec les pays africains ou d'Amérique latine.
Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux autres festivals ou pas du tout?
Pas du tout. On l'a fait. On a eu comme ça chaque année des gens qui venaient nous trouver parce qu'ils avaient envie d'organiser un festival et qui venaient voir comment on faisait parce que c'était assez unique chez nous. Et donc depuis lors, il y a des festivals qui se sont créés et qui ont repris nos valeurs. Mais il y a une petite dérive qui me dérange, c'est que les valeurs que nous on défendait parce qu'on y croyait sont devenues aussi des enjeux de marketing. Et ça me dérange énormément. Et donc je préfère les faire travailler. Oui, on aide encore des gens, mais il faut que je sente et que l'équipe sente qu'on est vraiment dans quelque chose de vrai. Quoi,
c'est-à-dire que l'équitable est devenu à la mode ?
Et comment ? Oui, c'est clair que la grosse mode depuis 2 ans, c'est le développement durable. C'est évident que plus aucun festival n'oserait dire qu'il ne s'inscrit pas dans le développement durable. Et puis l'éthique va émerger de plus en plus aussi, et c'est déjà le cas maintenant. On voit un événement sur d'abord sa valeur artistique, mais aussi sur la manière dont il respecte l'environnement, dont il respecte l'individu, etc. Et je n'ai aucun problème avec ça. C'est très bien, évidemment. On est très content. Avant Esperanza, des villages associatifs dans des festivals où le tri des déchets, etc., n'existait quasiment pas. Donc on a initié beaucoup de choses. Même les cabinets ministériels ont repris et ont poussé à ce que des choses qui se faisaient à Esperanza se fassent aussi dans les autres festivals. J'ai parfois l'impression qu'on a un peu oublié que ça venait de chez nous, mais c'est bien, ça nous oblige aussi à être encore plus forts et encore plus authentiques dans ce qu'on met en place. Hein.
Donc c'est bien qu'on généralise les pratiques et les démarches, mais méfiez-vous des contrefaçons, quoi.
Le marketing éthique et le marketing environnemental me dérangent. Je veux dire, on organise un festival quand même pour que les gens découvrent quelque chose avant tout sur le plan artistique. Esperanza est un festival engagé parce que c'est dans notre nature et parce que voilà, ça nous correspond. Mais c'est avant tout un festival qui défend une identité artistique à tout niveau. Si on fait un festival pour attirer une vedette très chère, remplir et en même temps derrière vendre des valeurs parce que ça rapporte sur le plan marketing, moi ça ne m'intéresse pas du tout même.
Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore osé faire et que tu aimerais faire pour les prochaines années ? Est-ce que le festival va continuer déjà peut-être ?
Mais écoute, le 10e anniversaire est une étape importante. Les époques changent, il y a de plus en plus de festivals. On va voir cette année si le festival a toujours le même engouement. C'est une évaluation importante pour nous, ce 10e anniversaire. Et en fonction de ça, on décidera ce qu'on fait à l'avenir.
Alors cette année, par exemple, une découverte ou deux comme ça qui te tiennent à cœur. Je sais que tu veux pas faire de concurrence entre les artistes, mais quelque chose qui t'a vraiment beaucoup plu et que tu as réussi à programmer.
Mon tout premier coup de cœur cette année a été un groupe portugais qui s'appelle Ok Estrada, qui fait ce qu'ils appellent du fado de campagne. C'est joyeux, c'est pétillant, c'est un mélange entre cabaret, fado, musique festive. Ils sont inventifs, on a l'impression d'être dans un cabaret. Là maintenant j'écoute en boucle un artiste, je me suis vraiment battu pour l'avoir, il est en train de devenir une superstar en Italie, c'est Raphaël Gualazzi. Le nouveau Paolo Conte, mais c'est un pianiste virtuose et qui fait une, et c'est un fou. Ce type est complètement cinglé sur scène. Comme je le dis chaque année, je ne prends pas beaucoup de risques par rapport à ma programmation pour le public qui sera là. Parce qu'il va être scotché, et je le sais, quand tu programmes des artistes comme ça, t'as pas de risque, l'artiste est tellement phénoménal que ça va être extraordinaire. Raphaël Gualazzi, on va en entendre parler, c'est évident, quoi. Il y a Sophia Charaille aussi, très doux, très, très, très vrai, très, très enjôleur, c'est une femme d'une quarantaine d'années, d'origine marocaine, et qui fait une musique avec des métissages qui viennent d'Andalousie, d'Arabie, qui chante en plusieurs langues. C'est magnifique. Il y a, sur la scène côté court, avoir réussi à programmer un groupe comme Chaka Punk, parce que c'est de l'énergie brute, c'est des trucs qu'on a déjà eu à Esperanza et que j'aime bien avoir à Esperanza. J'ai envie de voir que ça pogote, que les gens se jettent complètement dedans, et pour moi, ça c'est le meilleur des groupes pour cette année. On va faire la différence, c'est certain, si les gens viennent et continuent à venir pour découvrir des choses différentes et pour découvrir des nouveautés.
Pour les 10 ans, tu pogotes côté court.
Entre autres.
Les coups de cœur d'Ophélie. Coup de cœur d'Ophélie.
Alors cette semaine, Ophélie, le coup de cœur, c'est quoi ? Il paraît que t'as préparé, parce que c'est vrai que les semaines précédentes, c'était un peu plus rock'n'roll, quoi.
Je me suis dit que comme j'avais droit à un jingle, il y avait intérêt que ça fasse un petit peu pro, donc écouteurs, et préparé, j'ai sorti tous les CD. Mais mon coup de cœur ne sort pas de la boîte, c'est un coup de cœur, c'est d'ailleurs moi qui l'ai soumis au programmateur.
Tu as soumis donc un artiste au programmateur, et donc il s'agit d'Adamo.
Non, ça fait 10 ans que j'essaye. Non, mais j'ai soumis et il a accepté. C'est le groupe Monday Morning. que j'ai vu l'année passée au Jivasik et que je trouvais très touchant. Et donc, je l'ai proposé à Jean-Yves pour la scène Souk. Il les a écoutés, a beaucoup aimé, donc les voilà sur cette petite scène. C'est juste leur voix, tous les deux, la façon dont ils jouent de la guitare, trop bien. Et puis voilà, je trouvais qu'ils étaient tout mignons, tous les deux, sur scène, et très agréables pour les avoir côtoyés un peu en loge. Donc, voilà, c'est parti.
Radio.esperanza.be.